RCF. RCF. Vitamine C. Christopher Fausten.
Bienvenue dans Vitamine C, le magazine des chrétiens qui se bougent. Pour cette première de l'année 2024, permettez-moi de vous souhaiter une fois de plus les meilleurs vœux, une très bonne année, douce année 2024 ainsi qu'une très bonne santé. Pour ce premier numéro de l'année 2024 de Vitamine C RCF Cœur de Champagne, intéressons-nous pour ce premier numéro à la fête de l'Épiphanie, fête des Lumières, fête de l'eau avec le père Patrice Olivier, prêtre en retraite à l'espace missionnaire Brie, qui est au micro de notre correspondant Christian Lanciou.
La vie chrétienne dans les paroisses et les mouvements, c'est Vitamine C sur RCF.
Bonjour Patrice.
Bonjour à tous et à toutes.
Il y a 10 jours, c'était Noël. Dimanche dernier, c'était la fête de la Sainte Famille. Et dans 4 jours, nous avons souhaité que vous nous parliez des rois mages.
Alors c'est toute une histoire, les rois mages. D'abord, les rois mages, c'était pas sans doute des rois. C'était plutôt sans doute des marchands dans ce pays qui allait de long en large, des marchands en voyage. Et puis ils ont eu cette découverte intérieure profonde que l'Évangile nous présente comme une étoile qui a guidé leur vie et qui les a amenés jusqu'à Jésus. Donc au départ, plutôt des marchands. Puis la tradition en a plutôt fait des astrologues, parce qu'ils venaient de l'Est, donc de la Chaldée, et c'était en effet un pays où on était très attentif à l'astrologie, et puis en plus il y avait l'étoile, donc les astres, on en a fait des astrologues. Puis on en a fait des ambassadeurs du roi de Perse. Ça commençait à devenir là un peu, en effet, royal. Ce n'est que un peu plus tard qu'avec César d'Arles, de Tertullien, au deuxième et troisième siècle, qu'ils sont devenus des rois. Avant, non, mais là, ils sont devenus des rois. Ils sont venus des rois, et je vais dire une chose importante quand même, c'est que peu à peu, ils ont complètement évacué les bergers. Or, le désir de Dieu était de se manifester, puisque l'épiphanie, c'est manifestation, de se manifester aux plus petits, aux plus pauvres, pas du tout aux rois et à tout ça. On a donc là comme une distorsion du message de Noël. Mais vous allez voir qu'il sera récupéré autrement à travers l'histoire. Donc, c'est une image de la société, où pas à pas, c'est toujours les grands qui prennent le devant. Enfin, on a ça, c'est ça. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'au début, on voit que dans les représentations que l'on a, c'est une procession, et ils ne sont pas à la crèche. Ce n'est que plus tardivement qu'on les voit à la crèche, dans un geste d'adoration. Et ça, c'est au IVe siècle. C'est à ce moment-là qu'on voit ça. Et avec un geste un peu plus tardif que l'on voit et qui est très, très beau, c'est ces rois qui déposent leur couronne devant Jésus, le roi du monde. Car c'est bien ça, d'abord. L'épiphanie, c'est Jésus est venu pour tous les hommes. Et ça, c'est quand même très important. Peu importe qui ils étaient finalement, ils nous représentent tous, mais c'est cette démarche vers celui qui veut se faire connaître de tous les hommes.
Alors c'était quand même, merci de cette leçon d'histoire, j'allais dire, dans le temps, mais alors est-ce qu'il s'appelait quand même bien Melchior, Gaspard et Balthazar?
Ben, on n'en sait rien du tout, ça c'est des noms qui leur ont été donnés à un moment donné. D'ailleurs, l'histoire est intéressante. La plupart du temps, ils sont trois, mais de temps en temps, à cause de l'or, l'encens et de la myrrhe. Mais en fait, il y a parfois où ils sont deux et d'autres fois où ils sont quatre. Il n'y a pas beaucoup de représentations comme ça, mais il y en a quelques-unes. Mais au début, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils sont tous pareils. C'est trois personnes, quoi. C'est peu à peu que... Et on voit apparaître un vieillard, un homme mûr et un jeune homme. Et même ce jeune homme, pas à pas, est assez efféminé. Et à certains moments, on pense que ça peut être tout à fait une femme. C'est quand même intéressant de voir cette évolution. Et ce n'est qu'après que l'on voit apparaître un blanc, un noir, et puis un jaune, on peut dire, venant d'Extrême-Orient. Hein. Les pauvres rouges d'Amérique, ça, ils n'y auront pas droit. Même après la conquête de l'Amérique, on ne les intégrera pas. C'est important, parce que je crois que c'est l'affirmation que ce soit l'âge, que ce soit les races, Dieu vient pour tous les hommes. Jésus est le roi de tous les hommes.
C'est alors, cette diversité. Est-ce qu'on peut dire quand même qu'on leur voue un culte ?
Oui. Il y a un culte qui va être fait surtout au XIIe et XIIIe siècle en Allemagne, avec des reliques, bien entendu. C'est le Moyen-Âge. On revient des croisades avec tout ça. Il y a des tas de choses. Il y a toujours eu un culte dans l'Église orientale, mais nous en étions assez loin. Et c'est en Occident, donc plutôt là. Et c'est intéressant de voir qu'à ce moment-là, 12e, 13e siècle, ils deviennent les patrons des pèlerins. C'est eux qui sont des gens en pèlerinage. C'est le culte est autour de ça. Mais il y a beaucoup, de plus en plus de choses qui se manifestent autour de l'épiphanie. Il y a toute une théâtralité qui est mise en place pas à pas à l'intérieur de l'Église, puis à l'extérieur de l'Église, avec des tas de choses. Et cette chose toujours assez intéressante, mais qui est bien une récupération, c'est que parfois le roi, c'est le vrai roi qui joue son rôle pour valider sa royauté auprès de Jésus, le vrai roi. On a là quelque chose d'important. Puis ça va dégénérer. Alors il va y avoir toutes sortes au Moyen-Âge de charivari, de trucs extraordinaires. Et puis, c'est à peu près au XIVe siècle qu'on va faire toujours la fête, elle est là, mais on va la faire autour d'une galette, avec le tirage au sort d'un roi. C'est intéressant de voir cette... C'est plus le roi qui joue le premier rôle, c'est un roi d'un jour qui devient là. Bon, tout le monde connaît bien sûr la crèche avec François d'Assise, mais avec François d'Assise, il n'y a que les bergers, et puis c'est tout. Et puis c'est des personnages vivants qui sont là. Ça n'est que... plus tardivement que vont se mettre en place des santons, des choses comme celle-là, au XVIIe siècle. Cette représentation qui était publique se fait de façon plus privée, et avec la Révolution, ça va être la famille autour de la crèche, déjà, et avec cette invention formidable des santons, parce que je dis formidable, parce que ça va dans le sens de l'épiphanie. Tous les métiers, tous les gens, ils sont intéressés, c'est pour eux que Jésus vient. Donc il y a cette réalité à travers tous les santons qui sont magnifiques.
Eh bien, écoutez, on y pensera quand on mangera une galette des rois, on pensera à vous et on pensera aux santons donc, de l'épiphanie. Alors on termine par les offrandes que vous avez évoquées là.
Oui, ils portent des offrandes, l'or, l'encens et la myrrhe, ça c'est dans l'évangile. L'or, c'est ce que l'on offre à un roi, c'est le tribut que l'on donne à un roi. L'encens, c'est ce que l'on donne à un dieu, c'est la façon de vénérer Dieu. La myrrhe, c'est ce que l'on utilise au moment de l'ensevelissement. Et à l'avance, il y a déjà cet ensevelissement de Jésus à la crèche, à travers cette myrrhe qui est donnée. Et petite note intéressante au niveau liturgique, au 7e siècle, quand on célèbre la messe de l'épiphanie, on s'agenouille pendant l'offertoire, alors qu'on ne le fait pas du tout, mais à ce moment-là, pour bien marquer cette offrande, pour nous aussi faire notre offrande. Qu'est-ce que j'offre à Jésus ? Qu'est-ce que je viens lui apporter ? Est-ce que j'avance jusqu'à lui en suivant l'étoile, c'est-à-dire la parole de Dieu ? Est-ce que je cherche ? Est-ce que je processionne ? Est-ce que j'offre ? Est-ce que je repars chez moi transformé ? C'est tout le message de l'Épiphanie.
Merci Patrice. Je pense que dans 4 jours, tous ceux qui vous ont entendu, peut-être verront d'un autre œil la fête de l'Épiphanie. Merci encore et à bientôt. Au revoir.
Vitamine C.
Merci Père Patrice Olivier, au micro de Christian Lanciot depuis le sud-ouest Marnais dans l'espace missionnaire Brie. Christian Lanciot, qu'on aura l'occasion de le retrouver dans quelques jours, mercredi prochain, dans la matinale RCF, afin de nous intéresser cette fois-ci à la fête de la Sainte Léonie à Via. Avant de nous quitter, un point sur l'agenda du diocèse. Ce dimanche 14 janvier aura lieu à Épernay une journée de fraternité diaconale. Cette journée qui a lieu 2 fois par an est l'occasion pour les diacres de se déplacer dans les espaces missionnaires pour sensibiliser au ministère diaconal. La célébration sera présidée par le père Denis Véju, administrateur diocésain. Le dimanche 21 janvier de 15h à 17h à la salle Odette Prévost à Lépine se déroulera la 4e fête de l'unité dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Cette semaine se déroule au niveau international chaque année du 18 au 25 janvier depuis plus de 60 ans. On en parlera plus longuement dans le prochain numéro de Vitamine C la semaine prochaine, même jour, même heure. Et enfin, du 27 au 28 janvier, au sanctuaire Notre-Dame de Lépine, se tiendra le week-end des vocations. Ce temps spirituel et fraternel est à destination de ceux qui se posent des questions sur la vocation. Au programme enseignement et accompagnement individuel, prière avec les sœurs bénédictines, sans oublier le temps fraternel. Vous pouvez dès à présent retrouver toutes les informations et vous inscrire à l'adresse suivante chalon.catholique.fr. D'ailleurs, toutes les informations concernant les événements, les rendez-vous concernant le diocèse de Chalon, c'est sur la même adresse internet, chalon.catholique.fr, ainsi que la page Facebook du diocèse de Chalon. Ainsi s'achève ce magazine Vitamine C. Merci de nous avoir suivis de votre fidélité. Cette émission est à retrouver en podcast également sur notre site rcf.fr et les différentes plateformes de podcast. Très bon week-end de l'Épiphanie à tous.
Vitamine C, RCF.